essayer d'y puiser des leçons pour nos vies. Alors, s'il y a reconstruction, c'est qu'il y a eu destruction, évidemment. Il y a eu l'invasion des Babyloniens, Nebuchadnezzar a détruit Jérusalem, il s'y est pris à 3 reprises, hein, il a fallu 3 invasions, parce qu'à chaque fois Israël s'est révolté contre Nebuchadnezzar jusqu'à ce qu'il vienne une ultime fois tout détruire, et même le temple de Jérusalem. Et ça a été un grand désarroi, parce qu'Israël, à un moment donné, au lieu de placer sa foi en son Dieu, avait plus placé sa foi en son temple. Et Jérémie avait prophétisé. Vous dites, c'est ici le temple, le temple, le temple de l'Éternel. Mais Dieu va le détruire. Et ils n'y croyaient pas. C'est pour ça qu'ils se sont révoltés même contre l'évidence, contre toute logique. Ils n'étaient presque plus une nation, ils étaient tellement affaiblis, mais ils se révoltaient encore contre la puissance de Babylone et de Nebuchadnezzar. Ils ont été jusqu'au bout du bout, jusqu'à ce que Dieu bien accomplisse sa parole et ce temple soit détruit. Mais Dieu est souverain, nous le verrons, ça devait durer une période et pas plus. Parce que tout est dans la main de Dieu. Même nos vies, dans les moments les plus dramatiques, où on a les pires épreuves, où on ne comprend plus rien, bien, c'est quand même à ce peuple que Dieu a dit qu'il avait un avenir et de l'espérance. Alléluia. Et quand nous, on n'a plus d'espoir, Dieu a une espérance, ce qui est plus que l'espoir encore. Dieu soit béni. Alors, on va lire d'abord le récit historique de la reconstruction du temple, et ensuite, on lira dans 2 prophètes, ce qu'il y avait derrière ce récit historique. Alors, le récit historique se trouve dans le livre d'Esdras. Alors, Esdras, c'est après les livres des chroniques. Hein. Samuel, roi, chronique, Esdras. Ça va vous aider. Esdras, chapitre 1er, versets 1 à 4. Esdras, chapitre 1er, verset 1er. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Amen. Donc afin que s'accomplisse ce que Jérémie avait dit, qu'avait-il dit? Jérémie avait prophétisé 70 années d'exil, mais qu'au bout de 70 ans, et le chiffre 70 n'est pas anodin, c'est un chiffre symbolique, 7 fois 10, au bout de ces 70 années, du temps que Dieu avait décidé, eh bien Israël reviendrait et pourrait reconstruire son temple. Cyrus n'est pas un croyant, il n'est pas converti, mais il est le serviteur de l'Éternel quand même, d'après un prophète qui date d'avant Jérémie, Ésaïe. Plus de 150 années avant que Cyrus naisse, Ésaïe, inspiré par le Saint-Esprit, avait annoncé que viendrait un serviteur de Dieu, un roi qui s'appellerait Cyrus, pour favoriser la reconstruction du temple. Cyrus est serviteur de Dieu, dans le même sens qu'en Romains chapitre 13, le magistrat est serviteur de Dieu, c'est-à-dire que, quoique pas converti, quoique païen, Dieu l'a utilisé pour faire son œuvre. Dieu se sert de qui il veut. Amen. Que l'on soit converti ou pas converti d'ailleurs, Dieu peut utiliser les incroyants, Dieu utilise les rois, les empereurs. Voilà pourquoi la Bible recommande aux croyants de respecter les autorités et de s'y soumettre, parce qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Le principe d'autorité est divin. Alors, Si vous connaissiez la vie de Cyrus, vous pourriez vraiment douter qu'il soit vraiment au service de Dieu, ainsi que Nebuchadnezzar, ainsi que bien d'autres. Mais en réalité, la Bible demande aux chrétiens de comprendre que c'est Dieu qui règne et que c'est lui qui établit sur la terre une autorité pour qu'elle soit organisée, parce qu'il n'y a rien de pire que l'anarchie. S'il n'y avait pas de roi, de police, on s'entretuerait tous. Comment est l'être humain ? Dieu a voulu, même dans le monde des anges, alors on pourrait dire oui sur la terre parce qu'on est pécheurs, mais je ne suis pas sûr que dans le monde à venir, il n'y aura plus non plus d'organisation de ce type, puisque même dans le monde des anges, il y a des archanges, des chefs d'anges. Il y a, donc même le ciel est organisé avec des gloires, des puissances, des autorités qui sont écrites dans la parole de Dieu. Cyrus est utilisé entre les mains du Dieu souverain parce qu'il fait ce qu'il veut. Alléluia. Et un homme a fait un décret de lui-même, parce qu'en fait la politique des Mèdes, parce que les rois de Perse, mais avant tout de Médie, la politique des Mèdes et des Perses était complètement opposée à celle des Babyloniens. Les Babyloniens déportaient toutes les populations, rasaient tout, que les Mèdes et les Perses favorisaient la liberté religieuse pour favoriser la paix de leur royaume. Donc ce que Cyrus là a fait coïncidait aussi avec sa politique générale pour tous les peuples, pas que pour Israël. Mais en réalité, depuis plus de 200 ans, Dieu avait prévu que ce roi vienne avec cette idée, cette politique nouvelle et ce décret qui serait déclaré. Hein, parfois, les hommes pensent que c'est leur politique qu'ils accomplissent, mais c'est bien souvent Dieu qui accomplit sa volonté. Alléluia. Voilà, alors, voilà pour les dits. Allons au chapitre 3, verset 8. Maintenant, la pose des fondations de ce temple qui était à reconstruire. Chapitre 3, verset 8. La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shaltiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre et chargèrent les Lévites de 20 ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué, avec ses fils et ses frères Cadmiel, avec ses fils de Juda, les fils de Henadad, et avec leurs fils et leurs frères les Lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, donc on est bien aux fondations, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébraient et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. La preuve, hein, c'est que malgré leur péché et leur dispersion, Dieu les avait fait revenir. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de familles âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie du bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Amen. Voilà donc pour la pose des fondations. Dieu l'avait prévu. Un reste de son peuple revient et se met au travail. Notez en passant que peu de Juifs sont revenus de Babylone, parce qu'il faut mesurer le sacrifice que cela représentait. À Babylone, ils avaient obéi à Jérémie qui disait de prier pour le bien de cette ville et d'y travailler. Et les Juifs y avaient prospéré par la grâce de Dieu. Et beaucoup y vivaient une vie désormais confortable. C'était des prisonniers en prison dorée. Et pour revenir rebâtir le temple dans une ville en ruine, fallait se retrousser les manches, abandonner son confort et faire un choix très difficile. Et quand on voit dans les chapitres entre le premier et le troisième que nous avons lu, le nombre de ceux qui sont revenus, c'est vraiment pas beaucoup. Il n'y a pas eu beaucoup de Juifs qui ont eu assez de zèle et de courage pour revenir reconstruire la maison de Dieu. Mais néanmoins, ils se mettent à l'œuvre. Nous le voyons dans ce chapitre. Mais il y a un sentiment contrasté. Il y a de la joie et de la tristesse. Il y a des gens qui font éclater leur joie et d'autres qui pleurent parce qu'ils ont connu une autre période. Nous, on dirait entre chrétiens, moi j'ai connu le réveil. J'ai connu le réveil et aujourd'hui, il y a de quoi pleurer. Les âgés voyaient les choses comme cela et les autres étaient très joyeux, mais le sentiment était contrasté. Alors, vous allez le voir dans quelques instants, ils ne vont pas continuer à reconstruire le temple. Alors, la leçon que j'en retire est la suivante, c'est que l'on pleure ou que l'on soit dans la joie, il faut faire attention. Les larmes peuvent nous attrister, nous décourager, et la joie superficielle, si elle n'est pas suivie d'une persévérance, est trompeuse. Parce que ceux qui étaient heureux ou ceux qui étaient tristes, au final, n'ont pas continué à construire la maison de Dieu. Alors on le lit ça maintenant, au chapitre 4, versets 1 à 5. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent « Nous bâtirons avec vous. Car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Saradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent « Ce n'est pas à vous, et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons, nous seuls, à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir, et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Amen. Ah, c'est étonnant, vous ne trouvez pas? Alors ça venait de Dieu ou ça ne venait pas de Dieu? Parce qu'ils ont arrêté. Jusqu'à ce que Cyrus meure. Ça venait de Dieu ou ça venait pas de Dieu? Excusez-moi, c'est écrit dans le livre Ésaïe, c'est écrit dans le livre Jérémie, ça venait de Dieu. Mais ça fait réfléchir, comme quoi on peut freiner l'œuvre de Dieu par découragement. C'était écrit, c'était prophétisé, ça s'est accompli, Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus. Ils ont eu le courage de quitter leur confort, ils se sont mis à bâtir avec joie ou larmes, mais ils n'ont pas persévéré. Ce sont ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Amen. Et ce n'est pas parce que les choses viennent de Dieu qu'elles se feront sans nous. Et même le plan de Dieu peut être freiné par notre découragement. Nous avons une certaine responsabilité. C'est étonnant quand même que cette construction s'arrête. Combien de temps va durer leur découragement? Plus de 10 ans. Je n'ai pas le temps ce matin de vous montrer par rapport aux dates des règnes des rois, on fait le calcul. Plus de 10 ans. Pendant plus de 10 ans, le peuple d'Israël n'y croira pas. Les rescapés n'y croiront plus. Et s'affaireront à d'autres choses, nous le verrons. Frères et sœurs, faites attention au découragement. Il y a découragement et découragement. Il y a le découragement qui peut durer 2-3 jours, une semaine, et puis après, on relève la tête. Et puis il y a le découragement plus profond qui fait qu'on continue de venir à l'église, mais on n'y croit plus. On continue de prier, on continue de lire la Bible, mais c'est plus comme avant. On s'affaire à d'autres choses. Peut-être que quelqu'un est découragé sans être dépressif. On peut vraiment assumer dans la vie, et vous le verrez tout à l'heure, ces Juifs qui ne construisaient plus le temple n'étaient pas dépressifs. Ils étaient découragés, mais pas dépressifs. Souvent, on pense que d'être découragé, c'est d'être dépressif. Mais être découragé, c'est parfois passer à autre chose, continuer de vivre, mais en ne se donnant plus pour l'œuvre de Dieu, parce qu'on est découragé. Alors, on continue. Heureusement, il y aura une intervention salutaire. Chapitre 4, verset 24. Alors, ça reprend, en fait, ce que nous venons de lire reprend au verset 24, parce que le chapitre 4 est un chapitre thématique qui réunit les divers obstacles que Israël a rencontrés dans la reconstruction. Donc, chapitre 4, verset 24, on reprend le fil du récit. « Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem. » Et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Agé le prophète et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shaltiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Amen. Donc on voit ici la reprise des travaux. Et si l'on continue, eh bien l'on verra que ça ira jusqu'au bout, mais nous le lirons tout à l'heure. Dans leur découragement, au bout de 10 ans, Dieu a suscité 2 hommes de Dieu, Agé et Zacharie. C'étaient des prophètes, et leur voix a réveillé leur cœur. Alléluia. En fait, il y a eu 2 réveils dans ce récit. Il y a d'abord eu le réveil de Cyrus, et ensuite il y a eu le réveil de Josué et de Zorobabel par la voix de ces 2 prophètes. 2 réveils distincts. Ils avaient besoin d'être réveillés parce qu'ils s'étaient endormis pendant ces 10 années de découragement. Quand on se décourage et qu'on se décourage longtemps, on finit par s'endormir. Heureusement, les hommes de Dieu sont intervenus. Est-ce que vous ne trouvez pas que dans la vie chrétienne, on a eu des moments où on s'est endormi? Et heureusement que Dieu nous a fait grâce par son esprit. Nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Et je crois que pour vraiment s'en sortir d'un découragement profond qui dure depuis des années, il faut la voix de l'Esprit. Il faut l'intervention du Saint-Esprit. Et qu'il plaise à Dieu que vous fassiez cette expérience. Si quelqu'un croit qu'il est découragé, sans être dépressif, ce n'est plus comme avant, alors il peut demander au Saint-Esprit, le Père, qui donne à tous. Amen. Si nous demandons le Saint-Esprit, il ne nous donnera pas une pierre au lieu de pain, mais il nous donnera ce que nous lui demandons. Amen. Alors l'achèvement, c'est au chapitre 6, versets 13 à 18. Voilà, et on aura fini avec le récit de la reconstruction. Chapitre 6, verset 13. Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shethar Boznaï et leurs collègues se conformèrent ponctuellement à cet ordre que leur envoya le roi Darius. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agé le prophète et de Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Amen. Et on voit même après, à partir du verset 16, la dédicace du temple où là, tout le monde sera heureux. Alléluia. Au final, ça venait vraiment de Dieu. Et Dieu a amené cette œuvre à son terme, même s'ils se sont découragés pendant une période de 10 années, grâce à l'intervention de ces 2 prophètes. Voilà pour le récit, pour que vous connaissiez comment le temple a été reconstruit. On va voir maintenant, dans la 2e partie de notre méditation, ce qu'ont dit ces prophètes. Parce que les prophètes Agé et Zacharie ont écrit un livre dans la Bible chacun. Et leur livre raconte cette période de la reconstruction du temple. Alors maintenant, on va aller lire dans ces prophètes. Alors, avant d'aller lire, un petit conseil. Vous avez les prophètes et les livres historiques dans l'Ancien Testament. Ce que nous allons faire succinctement ce matin, essayez de le comprendre pour votre vie de piété personnelle à la maison. Il y a toujours ce que les récits historiques disent de ce qui s'est passé. Ce sont des livres d'histoire, mais inspirés. Et puis il y a les prophètes, dans lesquels on voit souvent comme une autre version des choses. Et il est intéressant quand vous lisez la parole de Dieu et que vous lisez les livres historiques, parfois, quand vous voyez que ça concerne une période d'un prophète, d'aller lire ce prophète aussi, pour voir, avoir l'éclairage du prophète sur l'histoire d'Israël. C'est très intéressant. Alors, on continue donc, on va aller dans le livre d'Agé maintenant. Dans le livre d'Agé. C'est vers la fin, vous avez Malachi, Zacharie, Agé. Je prends dans la fin. Le dernier petit prophète, c'est Malachi. Avant, c'est Zacharie, Agé. Et c'est justement Agé et Zacharie qui nous intéressent. Lisons dans Agé, au chapitre 1er, les 15 premiers versets. Donc, c'est après les 10 ans de découragement, certains parlent même de 15 années, cette décennie de découragement, Agé est suscité et parle là au chapitre 1er, verset 1er. Agé 1:1. Vous voyez bien, c'est bien la seconde année du roi Darius. C'est donc le même temps que nous avons lu dans le livre d'Esdras. La seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shaltiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, dans son découragement de 10 ans, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, et avec les fondations qui avaient été refaites, on l'a lu, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Jaltiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu, et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » Et là, on voit le deuxième réveil, après 10 ans, 10 ans de découragement, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shaltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Amen. Amen. Voilà le premier message d'Agé pour ce peuple découragé depuis 10 ans. Elle disait, le temps, c'est pas le temps de Dieu. C'est pas le temps de Dieu de continuer. On a fait les fondations, on a eu de l'opposition, on s'est découragé. Ce n'est pas le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps de Dieu. On va vite à dire, c'est pas le temps de Dieu. Hein. C'est pas le temps de Dieu. C'est pas le temps de Dieu, alors qu'il y avait des prophéties très claires. Et qu'il y a eu un édit d'un roi païen, dédicté. Mais même devant l'évidence, quand on est découragé, qu'on n'y croit plus, on ne voit plus comme il faut. C'est pas le temps de Dieu. Alors, j'ai dit, c'est pas le temps de Dieu, peut-être, pour l'Église, mais c'est le temps de Dieu pour vous, par contre. Hein. Parce que chacun s'empresse pour sa maison. Voilà. Le premier message d'Agé, ça a été un appel à la reconsécration. La nature a horreur du vide. Si vous ne consacrez pas au Seigneur, vous vous consacrerez à d'autres choses. À votre travail, à vos loisirs. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu dans un livre qu'on est dans une vie à un rythme effréné où on passe du boulot qui nous surcharge au loisir. Et c'est vrai que l'esprit du monde, c'est d'être toujours en train d'être occupé à faire quelque chose. Et si ce n'est pas le boulot, ce sont les loisirs. Mais l'Église a été touchée par ce mode de vie mondain. Et le premier message d'Agé, c'est de dire, n'avez pas de temps pour la maison de Dieu. Mais vous avez beaucoup de temps pour vous, pour lambrisser vos maisons alors que ma maison est en ruine. Et certainement que pour sortir du découragement, il faut à nouveau reprendre la bonne direction, celle de la maison de Dieu. Amen. Reconstruire le temple, quel temple? Notre Église. Oh, ça peut être un message pour notre Église, certainement. Mais je pense que chacun d'entre nous, nous sommes le temple de Dieu. Et je crois plutôt aborder ce message plutôt dans ce sens, reconstruire le temple, c'est-à-dire reconstruire une vie consacrée pour lui. Reconstruire une vie où Dieu y habitera plus encore, où il y établira sa présence. Rétablir une vie dans laquelle il est en premier. Amen, il est en premier. Dieu dit, mais j'en aurai de la joie, bâtissez la maison, j'en aurai de la joie. Donc à mon avis, ceux qui pleuraient se trompaient. Parce que Dieu dit, si vous rebâtissez cette maison, j'en aurai de la joie. Dieu, il plaît à Dieu que nos vies lui soient consacrées. Amen. Et il faut retrouver. Il faut reconstruire, retrouver ce que nous avons perdu. Bien sûr, nous avons à assumer notre travail. Il ne nous est pas interdit de nous détendre. Mais peut-être un jour, nous méditerons sur les fêtes du Lévitique. Le repos sans Dieu n'existe pas, bien-aimé. La société de loisirs, c'est de vouloir vivre dans l'oubli de Dieu en multipliant ce qui plaît à la chair. Mais le vrai repos, c'est avec Dieu. Des vacances dans lesquelles on ne va pas à l'église, ce n'est pas le vrai repos. Des vacances dans lesquelles on ne lit pas la parole, on ne prie pas, ce n'est pas du repos. Ce sont des vacances. Mais il y a une grande différence entre des vacances ou des jours fériés et des jours de repos, selon la définition qu'en donne l'Écriture. Le repos et les vacances, ça peut être complètement différent. Ou si les vacances, c'est avec le Seigneur, alors c'est le repos. Alléluia. Le sabbat, ce n'était pas un jour férié. C'était un jour consacré. Le dimanche, ce n'est pas un jour férié. Ça devrait être un jour consacré. Attention, je ne dis pas que le dimanche est le sabbat chrétien. Ça, non. En Christ, le sabbat, c'est tous les jours. Alléluia. Néanmoins, il nous faut faire la différence entre vacances et repos. D'ailleurs, c'est ce que Agé leur dit. Vous mangez, mais vous avez faim. Vous vous vêtissez, mais vous avez froid. Vous savez, on peut prendre autant de vacances qu'on veut, notre âme ne sera pas reposée. Et des fois, on ne comprend pas, on dit, mais je reviens de vacances et je suis encore plus fatigué qu'avant. Oui, parce qu'on ne s'est pas reposé. on se repose en Jésus-Christ. Alléluia. On ne se repose pas à la campagne, même si des fois ça peut faire du bien, et je ne suis pas contre, comprenez bien. Mais si c'est à la campagne avec Jésus-Christ, alléluia, merci Seigneur. Une différence entre vacances et repos. Alors, oui, verset 12, il est dit qu'ils ont entendu. Ils ont entendu. Ils entendirent la voix de l'Éternel. Vous savez, quand on est découragé, il y a peut-être une chose qu'on peut faire. C'est entendre. C'est pas énorme, mais c'est essentiel. Se remettre en cause. Il ne faut pas beaucoup de force, il suffit d'écouter. Mais par contre, se remettre en cause nous est désagréable. Mais c'est le chemin de la repentance. La repentance, c'est une remise en cause. Amen. C'est accepter d'entendre. C'est pas fermer ses oreilles. Dans ce que, parfois, je peux vous partager, vous pouvez être déjà d'avance contre et de ne pas écouter. Mais si nous n'écoutons pas, nous ne pouvons pas être réveillés. Pour être réveillé, il faut entendre. Amen. Entendre afin d'être touché. Alors, puis chapitre 2, versets 1 à 9. Maintenant, on va lire une autre pensée. Deuxième message d'Agé. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shaltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, j'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. J'ai intitulé ce deuxième message d'Agé « Une autre perspective ». Il leur pose la question, il leur dit « Mais ce deuxième temple, c'est quoi à vos yeux ?»« C'est rien du tout. C'est méprisable. Et c'est pour ça que certains d'entre vous pleuraient. » Et là, Agé dit « Eh bien, c'est faux. Ce n'est pas rien du tout. » La gloire de cette maison sera plus grande que la première. Alléluia. Changement de perspective. Vous savez, nous avons tort de travailler en pensant qu'on ne fait pas grand-chose et que ce n'est pas important ce que nous faisons. Parfois, on peut se dire, mais que de lutte, que de souffrance, que de combat, que d'années pour pas grand-chose. En réalité, c'est parce que nous manquons d'espérance. Agé, tout d'un coup, dit, il viendra un temps où j'ébranlerai encore tout ce que vous voyez. Et ma maison sera remplie de gloire. Ce texte est repris dans Hébreux chapitre 12 pour parler des nouveaux cieux de la nouvelle terre, du monde à venir. Et en fait, Agé veut leur dire, ce que vous êtes en train de faire, ça s'inscrit dans le plan de Dieu qui s'accomplira jusque dans l'éternité. Et nous, nous oublions que ce que nous vivons, ce que nous faisons pour le Seigneur, c'est participer à son plan rédempteur éternel. Et nous savons que nous ne travaillons pas pour rien, que nous ne croyons pas en vain, parce que Dieu aura le dernier mot. Dieu triomphera. Nous croyons que Jésus reviendra, qu'il jugera le monde, les cieux et la terre, et que se fera de nouveaux cieux et de nouvelles terres où la justice habitera. Et tout ce que vous aurez fait pour le Seigneur, bien ce n'est pas vain, parce qu'une grande récompense est attachée à votre appel. Amen. Nous devrions comprendre que nous ne travaillons pas pour l'église évangélique d'Aubagne 175, allée de la fourmi. Nous travaillons pour le royaume de Dieu. Amen. Ça, ce que nous croyons, ce que nous faisons dépasse de loin la vie présente. Amen. Et nous avons besoin de vivre et de servir le Seigneur en espérance. N'est-il pas écrit « Réjouissez-vous en espérance ». Alléluia. Et Agé donne ce souffle d'espérance et leur dit « Ce que vous faites, c'est pas rien, c'est pas peu, c'est pas moins. Ça va vous conduire vers plus, vers la gloire. Dieu soit béni. » Alors, je ne sais pas exactement comment tout cela sera transposé dans le monde à venir, mais je crois que tout ce que l'on fait aujourd'hui, c'est un investissement pour plus tard. Dieu soit béni. Amassez-vous des trésors dans les cieux, hein, là où on ne peut pas voler, là où ça ne peut pas rouiller. On n'aura pas le temps ce matin parce que le temps est déjà passé, mais si vous feuilletez un peu, vous arrivez au prophète Zacharie. Et nous aurions pu voir un petit peu le message de Zacharie. Ils ont été deux. Il y avait Josué et Zorobabel, et il y avait Agé et Zacharie comme prophètes. Ben, dans le prophète Zacharie, c'est dans ce passage-là, dans ce prophète-là, pardon, il y a ce passage très connu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Ça, c'est le chapitre 4 de Zacharie, où Zacharie voit deux oliviers. Deux oliviers qui alimentent le chandelier. Et il lui est expliqué que les deux oliviers, c'est Zorobabel et Josué, qui alimentent le peuple de Dieu pour qu'il brille. Et ce n'est pas par la puissance humaine, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Amen. Nous, c'est pareil, comment on va reconstruire nos vies, l'Église, comment on va bâtir un sanctuaire pour Dieu, c'est par le ministère du Saint-Esprit. Amen. Il y a ce beau passage dans les évangiles qui dit qu'un homme est en train de dormir, ben pendant qu'il dort, ben la semence continue de croître. On peut dormir tranquille parce que Dieu agit. Ce n'est pas par nos moyens, ce n'est pas par nos forces. Nous, on a nos faiblesses, et on a nos manquements. Et bien souvent, on est humilié de nous-mêmes. Mais Dieu agira malgré nous et avec nous. Alléluia. Parce que si c'était que malgré nous, Dieu ne serait pas si grand que ça. Mais Dieu est tellement grand que malgré ce que nous sommes, il travaillera avec nous. Alléluia. Il réussira à faire de nous quelque chose quand même. Il nous prendra comme un instrument. Je crois foncièrement que notre assemblée dépend de Jésus-Christ. C'est lui son sauveur, c'est lui son chef, c'est lui son berger. Amen. Et de son ciel, il répand son esprit et il agit. Dans nos réunions, des fois, des gens seront convaincus de péché, seront touchés, seront sauvés, quel que soit le prédicateur, quelle que soit la réunion, bonne ou mauvaise, parce que nous, c'est nos ressentis, on a une bonne réunion, et là, oh, c'était pas terrible. Ça, c'est nous qui disons ça. Mais que de fois, je me souviens à l'école biblique, on allait souvent dans différentes assemblées, et puis M. Maurice prêchait, et puis parfois, le dimanche après-midi, on sentait l'auditoire s'apesantir, c'était l'époque où il y avait des réunions d'évangélisation les dimanches après-midi, l'auditoire s'apesantissait. Faut le message, et puis moi je me dis, oh là, ça, c'est un peu difficile. Et puis dans cette même réunion, plus d'une fois, j'ai été humilié. Il y avait des âmes qui étaient touchées, vraiment. Le Seigneur les touchait. Alléluia. Vous savez, nous, dans une réunion, on peut passer complètement à côté. Et quelqu'un, par contre, ne va pas passer à côté. Son cœur va souffrir, ça va s'ouvrir, il va entendre. Et Dieu va agir. Alléluia. Si l'Église existe, c'est pas grâce à un mouvement ou à une institution, hein. C'est parce que c'est le Seigneur qui bâtit son Église. Alléluia. Même si la mort combat contre elle. Ça, c'est chapitre 4 de Zacharie. Au chapitre 3, j'ai déjà lu ce passage, je le relirai certainement en une autre occasion. En vision, Zacharie voit Josué très sale. Josué, c'est le souverain sacrificateur, c'est l'homme le plus saint. Le plus saint du peuple. Alors si le plus saint était le plus souillé, que dire de tous les autres? Et Agé voit, il y a un problème. Comment servir Dieu dans cet état-là? Ce matin, il y a peut-être un frère, une sœur qui n'est pas bien, qui s'en veut, se sent sale, se sent mal, se sent coupable, se sent pire que les autres chrétiens. C'est bizarre parce que si ça tombe ce matin, il y a plusieurs chrétiens qui se disent qu'ils sont les pires. Alors il est où le pire? Et c'est bizarre parce que tous les chrétiens ont des moments comme cela. Ben, ça, il faut peut-être quand même le lire dans Zacharie 3, verset 1er. On le lit quand même. « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. » Eh oui, c'est pas bizarre, c'est invisible. Comprenez? Il faut que vous réalisiez que si des fois vous avez tendance à trop remettre en cause l'œuvre de Dieu dans votre vie et à vous détruire, si vous avez tendance à vous rappeler certains passés, certaines choses du passé quand ça ne va pas bien, si vous estimez que vous êtes un mauvais chrétien, je vous assure qu'après ça va aller plus loin que vous-même. Le diable va vous accuser. Et je crois qu'un chrétien peut tomber vraiment dans une sévère dépression s'il ne veille pas parce que le diable peut le détruire. On comprend qu'ils étaient découragés depuis 10 ans et qu'ils ne se remettaient pas à la tâche. Leur chef le plus éminent, celui qui était consacré, celui qui était saint, il était à terre. Il était détruit par l'adversaire qui l'accusait et qui l'accusait. Heureusement qu'Agé, poussé par le Saint-Esprit, a vu ça. Ah, il faut que l'Esprit de Dieu nous donne plus de discernement, frères et sœurs. Il faut que l'Esprit de Dieu nous donne de voir plus que ce que nous voyons dans nos raisonnements. Il voit l'œuvre du diable, mais il voit l'œuvre de Dieu, un ange, qui déclare, qui prend la parole, ôtez-lui les vêtements sales. Et qui dit à Josué, je t'enlève ton iniquité, je te revais d'habits de fête, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Alléluia. C'est la justification. Merci Seigneur. Nous sommes justifiés par l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Il faut y croire. Pas forcément le ressentir, mais le croire. Vous n'avez plus de vêtements sales. Vous n'avez plus de honte sur votre vie. Vous n'avez plus à être mal dans votre peau et terrassé. Vous pouvez servir Dieu parce que Christ vous a justifié. Et si c'est Dieu qui justifie, qui pourra accuser les élus de Dieu? Amen. Quelle belle vision! Josué en avait tellement besoin. Vous savez, le diable essaye aussi beaucoup d'attaquer les responsables d'assemblée, priez pour les pasteurs, priez pour les serviteurs, parce que tout est fait aussi pour leur faire du mal dans des lieux invisibles, mais que Dieu puisse fortifier ses serviteurs comme Agé et Zacharie ont pu aider les serviteurs à bâtir la maison de Dieu. Amen. Alors, voilà le message des prophètes, et on pourrait encore dire bien des choses, mais concluons. Tout d'abord, Dieu est souverain. L'édit de Cyrus, et puis il réveille après 10 ans de découragement son peuple. Si l'œuvre s'achève honnêtement, c'est grâce à qui? C'est grâce à Dieu. Amen. Et vous savez, quand on ira jusqu'au bout et qu'on sera sauvé, ça sera grâce à Dieu. Parce que Dieu nous a appelés, il a fait un décret, le décret de Cyrus peut nous parler de l'élection. Dieu a décrété notre élection, mais honnêtement, depuis que nous avons été élus, nous n'avons pas toujours obéi. Et que de fois, c'est Dieu qui nous a réveillés, c'est Dieu qui nous a sauvés. Quand il est écrit qu'il peut sauver parfaitement ceux qui se confient en lui, Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu et il peut sauver parfaitement. Parfaitement, on peut le traduire aussi continuellement. Moi, je crois que Jésus-Christ ne m'a pas sauvé seulement le premier jour de ma conversion. Je crois qu'aujourd'hui, dimanche, ce dimanche, Jésus-Christ me sauve. Demain, Jésus-Christ me sauvera. Et si à la fin, je suis sauvé pour toujours, ça sera grâce à Dieu par Jésus-Christ, mon Seigneur. Amen. Oui, Dieu est souverain dans notre salut. Vous savez, c'est plus important qu'on ne le pense parce que je crois qu'on fait beaucoup trop dépendre notre vie chrétienne de nous, de ce qu'on est, de nos efforts. Et c'est vraiment une erreur. Parce qu'en fait, tout dépend davantage du Seigneur. Et c'est pour cela que nous avons à marcher dans la foi, par la foi. Amen. Notre certitude, notre appui, c'est lui. Si nous nous confions en nous-mêmes, malheur celui qui se confie en l'homme, même si cet homme, c'est soi-même. Deuxièmement, nous pouvons retarder le plan de Dieu. Alors, travaillons. Qu'est-ce que c'est que de travailler? Par exemple, témoignez autour de vous du Seigneur. Amenez des perdus dans la maison de Dieu. Dieu en fera des nouvelles pierres pour son édifice. Ne dites pas, actuellement, dans mon église, c'est pas le temps de Dieu. Il y a des gros problèmes. Il faut qu'on règle nos problèmes. J'ai raisonné comme ça au début de mon ministère. Je me disais, non, mais il faut que l'église aille mieux, il faut que l'église soit réveillée. J'ai raisonné comme cela. Mais vous savez, j'ai jamais réussi à trouver le bon moment. Parce que ça sera jamais assez bien. Et j'ai plutôt vu, avec étonnement, que Dieu a agi quand on n'est pas en forme. Que Dieu se glorifie lui-même. Amen. Alors nous ne sommes peut-être pas les meilleurs ouvriers du monde, mais nous avons le meilleur architecte. Alléluia. Alors, en conclusion encore, quel est le réveil de Dieu pour son peuple? La reconsécration. J'aimerais ce matin que quelqu'un entende qu'il faut arrêter de tout faire pour son boulot et ses loisirs, mais remettre le Seigneur sur son trône. Amen. Et puis, nous avons besoin certainement, dans le message des prophètes, d'assurance. Jésus-Christ nous justifie. Et le ministère du Saint-Esprit nous permettra de voir l'œuvre de Dieu. Amen. Ce que nous ne savons pas, ce que nous ne pouvons pas, Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, le fera dans notre vie. Ce que nous n'arrivons pas à rebâtir, le ministère du Saint-Esprit nous permettra, par sa puissance, de vivre ce que Dieu nous demande. Amen. Le ministère du Saint-Esprit ne fait pas seulement que pour les perdus, c'est pour nous tous, chrétiens. Nous sommes au bénéfice du ministère du Saint-Esprit. C'est la grande nouveauté de la Nouvelle Alliance. L'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas glorifié. Depuis que Jésus est glorifié, l'Esprit est répandu sur nous. Et nous avons le bénéfice de toute sa puissance pour la sanctification. Alléluia. Pour le renouvellement de notre intelligence. Et enfin, dernier terme de cette conclusion, travailler dans l'espérance. Amen. Travailler dans l'espérance. Nous ne travaillons pas seulement avec ce que nous voyons maintenant. En France, ce n'est pas un moment de réveil. Mais vous savez, des fois, j'ai des doutes. Est-ce qu'on dit qu'il se passe au Brésil et ailleurs? Quand je vois des églises multitudinistes qui se mélangent avec la politique et un tas de trucs, vous allez dire que j'exagère, mais franchement, je n'y crois pas trop. Je crois que le vrai peuple de Dieu a toujours été un reste en Israël. De même qu'aujourd'hui, il y a en Israël un reste, c'est Paul qui l'explique, les Juifs convertis à Jésus-Christ sont le reste. Je crois que dans toutes les nations, il n'y a qu'un groupe qui soit un reste, qui soit vraiment chrétien. Alors peut-être aussi que nos idées de réussite humaine doivent changer. Bâtissons le temple, ne pleurons pas trop. J'avais surtout ça sur le cœur. ne pleurons pas trop, mais travaillons. Parce qu'à pleurer, on va finir par se décourager. Et en se décourageant, on ne se rendra même pas compte que le temps passe et qu'au final, on fait beaucoup de choses pour notre vie et si peu pour le Seigneur. Ne pleurons pas trop, travaillons en comptant sur le Seigneur qui nous justifie. À Dieu soit la gloire. Amen. Quelqu'un peut prier ? Merci.